Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de l'émission, une église de la Nouvelle-Écosse est aux prises avec un beau problème. Accepter ou pas un don de 10 millions de dollars?
J'espère qu'ils vont prendre la décision d'accepter l'offre et rénover l'église. C'est certainement la plus grande église en bois dans l'Amérique du Nord et possiblement dans le monde.
Plusieurs municipalités canadiennes n'ont pas cette chance, elles qui se demandent si elles pourront faire les frais de la rétroactivité du personnel de la GRC.
Pour nous, il n'y a pas d'espace au budget pour payer un surplus à la GRC. Ce qu'on veut, c'est une conversation avec le gouvernement avant que le gouvernement en prenne la décision.
Les municipalités n'ont jamais été à la table de négociation. Et donc, au final, c'est elles qui ont la facture qui leur revient. C'est un peu comme se faire inviter au restaurant, puis au final, on te donne la facture. Ça fait un peu sursauter sur le coup.
Un Canadien sur trois fait du bénévolat et on souligne leur contribution à travers le pays lors de la semaine d'action bénévole qui vient de se conclure.
Le bénévolat, c'est une façon de sortir de chez soi et de rencontrer d'autres personnes et en espérant faire du bien à certains. C'est surtout la gratitude des patients quand ils vous disent « Oh, vous m'avez tellement de bien aujourd'hui, vous êtes un rayon de soleil. »
Et on regarde ce qui se passe sur notre radar et ça pulse dans les territoires du Nord-Ouest au Manitoba et dans le 13 au Nord du Québec. On vous parle d'une chorale, des refuges animaliers qui débordent et des défis entrepreneuriaux.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous. L'église Sainte-Marie à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse est aux prises avec un beau problème. Alors qu'elle est menacée de fermeture, elle reçoit une fantastique nouvelle. Un donateur anonyme lui offre 10 millions de dollars pour payer sa réparation et son entretien à la seule condition de demeurer ouverte aux célébrations et qu'elle reste donc une église catholique active dans la paroisse. L'église historique de Sainte-Marie à Pointe-de-l'Église, construite en 1905, en seulement 2 ans par le maître charpentier Léo Mélenchon, serait la plus grande église en bois recensée en Amérique du Nord. L'église comprend également un musée contenant une collection précieuse d'articles religieux reliés à l'histoire de la paroisse Sainte-Marie. Le donateur anonyme demande à ce que l'église demeure ouverte, mais il se trouve qu'il y en a déjà 3 autres qui peinent à remplir leur salle. Que faire? Une des 3 devra peut-être fermer. Daniel Aucoin est à Chéticamp, Nouvelle-Écosse, et discute de l'offre pour sauver l'église Sainte-Marie avec Pierre Comeau, président de la Société de restauration et de préservation de l'église Sainte-Marie.
Monsieur Comeau, vous avez travaillé pendant plusieurs années pour tenter de rénover, conserver l'église Sainte-Marie de la Pointe de l'Église. Incapable d'obtenir les argents et l'appui nécessaires, votre société avait mis fin à ses efforts pour trouver les ressources nécessaires afin de maintenir l'édifice ouvert. Ça a été quoi votre première réaction en apprenant la nouvelle de cette offre généreuse de 10 milliards de dollars d'un individu?
Bien, la première réaction, c'est une surprise, puis ensuite, immédiatement après, c'est une grande joie.
Depuis l'annonce de cette nouvelle offre, est-ce que les gens de la communauté en parlent? Est-ce que la communauté a été surpris? Est-ce que les gens sont contents?
La communauté a été certainement surprise. On en parle beaucoup. C'est sur Facebook, ça a été dans les médias, ça a été à la télé et autre chose. Puis on a des réunions publiques avec les paroissiens des 3 églises qui demeurent ouvertes avec l'évêque pour discuter de la situation. Je voudrais dire que ce que nous autres, notre société, avait tenté de faire, c'est un peu différent de cette offre. Cette offre est conditionnelle que l'Église doit rester une Église catholique active dans le sein de la paroisse. Nous autres, on voulait ramasser des fonds et puis prendre possession de l'Église, mais ça n'a pas demeuré une Église active. Ça aurait été comme un monument, un musée, avoir des spectacles, des affaires comme ça, des expositions dedans. Donc, notre objectif et puis celui-là de l'offre sont un peu différents. On avait vite réalisé, nous autres, que si on cherchait de l'argent des différents niveaux de gouvernement, ça ne sera pas pour rénover une église, ça sera pour un édifice. Le gouvernement n'est pas dans la besogne de fournir de l'argent pour maintenir des églises.
Alors, vous l'avez mentionné, l'archevêque catholique principal de la Nouvelle-Écosse qui organise des rencontres en fin de semaine pour discuter des offres relativement à l'Église Sainte-Marie. Comment important que c'est pour les membres des trois églises catholiques encore ouvertes de participer à ces réunions en fin de semaine?
Oh, c'est très important parce que dans le moment où on a trois églises actives, il y a un certain nombre de fidèles qui vont au service sur les fins de semaine. Ben, si l'église Sainte-Marie de la Pointe est rénovée, ça devient une quatrième église. Et puis c'est ça que l'archevêque veut discuter. C'est fort probable qu'il y aura trop d'églises. On n'aura pas besoin d'en avoir quatre. Donc, la question est qu'est-ce qu'on fait?
D'après vous, vous souhaitez que les paroissiens qui seront présents aux rencontres en fin de semaine vont prendre quelle décision, d'après vous?
J'espère qu'ils vont prendre la décision d'accepter l'offre et puis rénover l'église. Parce que si on peut avoir cette église-là en bonne condition, et puis en plus de l'offre pour la rénover, y a l'offre inclut fournir des fonds pour l'entretenir pour une bonne longue période de temps. Donc, si on peut avoir une église qui est en bonne condition et puis entretenue sans dépenser les fonds qu'on ramasse parmi les paroissiens, c'est certainement une bonne chose. Les trois églises qui existent, il y en a une ou deux qui ont besoin de réparation d'ici les prochaines 5 ans. Ça fait que ça me semble à moi que c'est si on pense sur la question économique, c'est une bonne chose.
On dit que l'église Sainte-Marie de la Pointe, c'est un monument aux Acadiens. Rappelez-nous un peu l'importance historique de l'église.
L'église a été construite environ 1900 et ouverte en 1905. C'est certainement la plus grande église en bois dans l'Amérique du Nord et possiblement dans le monde. Apparemment, il y en a une en Finlande qui est proche de la même grandeur. Mais si on regarde ça, ça a été construit par nos ancêtres sur une période de 2 ans avec beaucoup de main-d'œuvre bénévole. Et puis, c'est certainement quelque chose, c'est une grande attraction touristique. Et puis, c'est quelque chose que tous les Acadiens de la région de la Baie-Sainte-Marie peuvent être bien fiers de montrer ça aux touristes et voir qu'est-ce que nos ancêtres, avec leur foi et leur persévérance, avaient accompli.
Alors, on va vous souhaiter bonne chance. Pierre Comeau, président de la Société Édifice Sainte-Marie de la Pointe de l'Église. Merci beaucoup et bonne chance.
OK, il n'y a pas de quoi. Bonne journée.
Salut.
Peut profiter des largesses d'un don privé de 10 millions de dollars, les municipalités du Nouveau-Brunswick et des différentes provinces canadiennes vont devoir se gratter les méninges pour en trouver depuis qu'Ottawa leur a signifié qu'ils ne paieraient pas la note des récentes augmentations accordées rétroactivement aux effectifs de la Gendarmerie royale du Canada. Pour les petites municipalités comme pour les grandes, les argents se font rares, les bourses rétrécissent, les provinces devront peut-être assumer ces coûts. Nicole Summers, mairesse de la municipalité de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, craint de voir son budget bouleversé, possiblement amputé de quelques 400 000 $. Si on vous invite au restaurant, disent certaines, normalement ce n'est pas pour payer la note. Les municipalités demandent à être consultées lors des négociations des conventions collectives qui les concernent. Le reportage de Maxime Gauthier à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick.
Les conséquences de ça vont vraiment toucher directement nos services, vont toucher directement nos budgets. On sait que les municipalités ont un budget balancé. Donc, pour nous, il n'y a pas d'espace au budget pour payer un surplus à la GRC. Donc, ce qu'on veut, c'est une conversation avec le gouvernement avant que le gouvernement en prenne la décision.
Le budget fédéral qui propose un financement pour couvrir les coûts des augmentations de salaire de la GRC, mais seulement pour les collectivités qui offrent des services de police contractuels, ce qui n'est pas le cas pour Kedgwick et Saint-Quentin.
La décision a été prise pour les municipalités qui ont vraiment une entente directe avec la GRC. C'est ce qu'on avait quelques années passées. Maintenant, on est passé sous le parapluie de la province. La facture va être envoyée directement à la province. Ça va rester à la province de décider comment ils vont payer la facture. Est-ce qu'ils vont l'imputer directement aux municipalités ou est-ce qu'on va faire une entente à long terme? Donc, nous, c'est ces discussions-là qu'on veut.
On s'est entretenu avec le directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, M. Pascal Reboul, qui, avec la Fédération canadienne des municipalités et autres intervenants, font campagne depuis plusieurs mois pour représenter les intérêts des municipalités.
Malgré tout, on a quand même espoir de pouvoir faire du lobbying et faire un peu changer la décision ou avoir quelque chose, une aide au niveau fédéral, parce que cette décision-là ne correspond pas du tout à ce qui nous avait été dit dans la dernière année. D'où un peu la levée de bouclier qui a lieu actuellement au niveau canadien. C'est pas juste au niveau Brunswick. Pour essayer de faire réfléchir cette décision-là.
Ce que les municipalités souhaitent avant tout, c'est d'être consultées par la province avant qu'une décision soit prise. Pascal Reboul.
Ce qu'il faut noter, et c'est important, c'est que les municipalités remettent pas en cause le bien fondé de l'augmentation ou pas. Là, c'est pas du tout le sujet de savoir si c'est mérité ou pas mérité. Ce qui est remis en cause ici, c'est le fait que les municipalités n'ont jamais été à la table de négociation. Et donc, au final, c'est elles qui ont la facture, qui leur revient. Et c'est un peu comme se faire inviter au restaurant, et puis au final, on te donne la facture. Et ça fait un peu sursauter sur le coup. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Toutes les démarches qui ont été faites depuis un an, donc depuis que l'entente a été signée, c'est de dire, un, il faut que les municipalités soient à la table de négociation, parce qu'au final, c'est elles qui doivent payer la facture, et puis il faut que ça prenne en compte aussi la capacité de payer des municipalités. Et puis, il faut que pour cette entente-là, pour lesquelles les municipalités n'ont pas intervenu, que le gouvernement fédéral fasse un geste et prenne en charge cette rétroactivité. Donc là, dans le budget fédéral, il y avait une première réponse qui était donnée au niveau de la rétroactivité, mais sinon, on continue le travail. Et donc après, il y a aussi le volet de dire, pour les prochaines ententes, il faut qu'on soit à la table pour négocier, parce que ce sont les payeurs de taxes, les citoyens au final, qui ont la facture à payer. Donc, c'est important aussi qu'ils aient leur mot à dire.
Les municipalités de Kedgwick et Saint-Quentin paient environ 400 000 $ annuellement chacune pour le service de police. Si elles devaient absorber les coûts de cette augmentation salariale rétroactive à partir de 2017, l'impact financier serait des plus considérables pour l'entièreté des municipalités canadiennes. Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Célébré un peu partout au pays du 16 au 22 avril la semaine de l'action bénévole et pour cause, près d'un Canadien sur trois, semble-t-il, donne de son temps pour être au service de l'autre et pour tisser des liens. C'est d'ailleurs le thème choisi pour l'édition 2023 de la SAB. Une semaine d'action bénévole qu'on soulignait bien sûr aussi en Ontario. Notre journaliste Marie Hillès est allée à la rencontre de quelques-uns d'entre eux, notamment ceux de l'hôpital Montfort, qui organisait un déjeuner pour remercier les quelques 200 bénévoles qui y travaillent. Elle parle d'abord avec Denis Lajoie.
Pourquoi c'était important pour vous de faire du bénévolat?
Je trouve ça très valorisant parce qu'on rencontre beaucoup de monde très intéressant. On rend un service à la communauté parce que les gens qui arrivent soit à l'hôpital, soit au Carrefour, ne savent pas comment s'orienter. Alors, on les accueille avec un sourire, toujours. On les aide à se rendre à leur endroit où ils doivent avoir leur rendez-vous. Puis, c'est très apprécié de la communauté. Les gens nous remercient de façon extravagante. Ils sont très gentils, sont très satisfaits d'avoir cet accueil-là.
Ce déjeuner est une occasion pour se réunir entre bénévoles. Adèle Coptifami, présidente de l'Association des bénévoles de l'hôpital Montfort, et Véronique Fortier, gestionnaire du service des bénévoles.
Je suis très heureuse. Les occasions de se réunir avec nos bénévoles n'ont pas été très nombreuses dans les derniers mois, dernières années. Alors pour moi, c'est aussi une occasion de revoir plusieurs bénévoles ensemble, puis de fêter en fait leur engagement, leur dévouement et tout le travail qu'ils font pour l'hôpital et pour la communauté en général. Alors je suis vraiment très, très contente. Vous savez, la Semaine nationale de l'action bénévole est sous le thème « Tisser des liens » cette année. Je pense que ça traduit très, très bien nos états d'esprit présentement. Comme le disait si bien Adèle, c'est vraiment fébrile. Le sentiment premier qui m'habite, mais aussi d'être... Je suis ravie de voir tous ces gens-là rassemblés ce matin pour fêter, célébrer nos succès.
Quand j'ai fait une entrevue avec M. Leduc, il disait que les bénévoles font partie de la maison. Sans eux, l'hôpital ne serait pas l'hôpital. Que pensez-vous de cette phrase et à quoi il faisait référence?
Ben écoutez, il a parfaitement raison. D'abord, du point de vue organisationnel, les bénévoles font partie du personnel de Montfort. Donc, déjà ça, ils sont reconnus par la direction générale comme faisant partie de ce qu'on appelle la famille Montfort. Il y a une très grande fierté chez les bénévoles d'être impliqués dans cette organisation, cette institution qui est très près de leur cœur. Vous savez qu'on a dû se battre pour avoir notre hôpital. Donc, il y a toute une histoire derrière cet attachement. Et puis aussi, il faut dire que nos bénévoles se retrouvent dans à peu près tous les secteurs de l'hôpital. Et ils font du travail extraordinaire qui est reconnu par les gestionnaires, les directeurs et par leurs collègues aussi.
Que font les bénévoles que, par exemple, les médecins et les infirmières n'ont peut-être pas le temps ou ne peuvent pas le faire?
Bien, c'est certain que c'est un service complémentaire d'être bénévole. Et puis, comme le disait si bien Adèle, c'est vraiment une famille, c'est une communauté, l'hôpital Montfort. Alors, ils viennent évidemment appuyer le personnel, mais également aiguiller les patients, les visiteurs, les proches des patients quand ils vont à un rendez-vous, par exemple, ont besoin d'être accompagnés, d'être guidés. Alors, le bénévole peut, entre autres, occuper cette tâche.
Huguette Lydie est bénévole à l'hôpital depuis 5 ans.
Le bénévolat, c'est une façon de sortir de chez soi et de rencontrer d'autres personnes et en espérant faire du bien à certains. C'est surtout la gratitude des patients quand ils vous disent « Oh, vous m'avez tellement de bien aujourd'hui, vous êtes un rayon de soleil ». Je me souviens d'un jour, je suis entrée dans une pièce et il y avait une visiteuse, un patient, et une visiteuse m'a dit « Oh !» La patiente m'a regardée, elle dit « Vous avez une aura !» J'étais vraiment émue de ça, parce que je me suis dit « Peut-être que je dégage quelque chose de chaleureux. » Et puis j'étais vraiment contente de ça, très touchée. Oui.
Selon vous, quelles sont les qualités d'être une bonne bénévole?
Je pense qu'il faut avoir... il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir le sens du jugement. Il faut savoir quand on peut s'approcher des gens et quand c'est pas le bon moment. Il faut être psychologue un peu pour évaluer si la personne est prête à recevoir ou non. Et souvent, il faut savoir se retirer. L'initiative, il faut avoir aussi. Et également, il faut être... capable d'aborder les gens sans les bloquer, sans les effrayer. Ça, c'est pas toujours facile.
Le bénévolat en chiffres. Une personne sur trois au Canada fait du bénévolat. En 2018, les bénévoles ont consacré environ 5 milliards d'heures à leur activité de bénévolat, un volume de travail qui équivaut à plus de 2,5 millions d'emplois à temps plein à l'année.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et on prend quelques minutes pour voir ce qui se passe sur notre radar. On passe d'abord rapidement au Québec où se déploie ces temps-ci le défi Ose entreprendre. Le défi est un concours entrepreneurial pan-québécois parrainé par une banque, en fait la Caisse populaire des Jardins, mais aussi par le gouvernement du Québec. Cette compétition fait rayonner des milliers d'initiatives entrepreneuriales allant des jeunes du primaire jusqu'à l'université avec son volet scolaire, mais aussi de nouveaux entrepreneurs du volet création d'entreprise, des créateurs inspirants du volet réussite et ceux du volet faire affaire ensemble, écrivent les organisateurs. C'est un immense concours où près de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions administratives du Québec. Vous vous en rappelez peut-être, notre journaliste en Basse-Côte-Nord, Pénélope Clermont, nous en avait parlé l'an dernier. Cette fois, c'est au tour d'Élisabeth Séguin de faire de même, elle qui est à Fermont, alors qu'on vient de nommer les lauréats qui prendront part au défi Ose entreprendre section section Côte-Nord cette année. 4 entreprises représenteront Fermont dans différentes catégories et parmi elles, ces 3-ci, le camp de base Fermontois, le motel Vent du Nord et l'entreprise Trémar. Alors, pour vous situer un peu, Fermont est situé à 1200 km au nord de Montréal. Élisabeth donc en parle avec Gabriel Jacob, agente de développement de la MRC de Kanya-Pisco.
C'est une belle visibilité pour tous les entrepreneurs locaux qui veulent participer, qui veulent se donner à ce défi-là. C'est le bon moment pour faire des contacts, pour un peu aussi se donner une tape dans le dos pour le bon travail, pour le lancement, pour la création d'entreprise, pour les partenariats d'affaires. Le défi aux entrepreneurs, c'est un beau projet en fait pour les entrepreneurs locaux. Ça vaut la peine de participer.
Oui, effectivement. D'ailleurs, l'année passée, on se souviendra, je pense que c'était le Dépanneur qui s'était rendu au gala provincial, en fait, avec le prix coup de cœur du public, si je me souviens bien. Le prix national, oui. Donc c'était quand même un gros prix qui a fait mettre Fermont sur la carte pour cet événement-là.
Beaucoup, on parle avec Véronique Dumais qui s'est rendue coup de cœur justement avec une entreprise à Fermont. Elle m'a parlé de son expérience beaucoup en me disant que les personnes, la clientèle en fait de Dépanneur venait et aussitôt qu'ils rentraient dans le commerce en attendant dans le fil d'attente, les gens votaient. On avait vraiment un sentiment d'appartenance puis on a trouvé ça le fun que la population participe autant dans un concept de coup de cœur. Ça nous a démarqué, ça a permis justement de montrer l'entreprise Dépanneur sous tous ses angles. Puis l'objectif du défi aux entrepreneurs, c'est vraiment de mettre l'emphase sur l'entrepreneuriat. Donc autant en création, autant en partenariat, c'est de montrer en fait le travail, se faire donner une petite tape dans le dos puis montrer l'entrepreneuriat sur toutes ses formes. On est chanceux à la MRC, on a plein d'entreprises qui sont en démarrage puis c'est ce qui vient intéressant dans ce projet-là parce qu'on peut se démarquer. Les lauréats locaux, on en a 4 cette année, on en avait 3 l'année dernière. On espère aussi que ce projet-là va grossir pour peut-être avoir l'occasion d'avoir un gala, un vrai gala local d'ici une couple d'années. On attend en fait la confirmation pour le 2 mai pour savoir qui va être les lauréats régionaux. Par la suite, il va y avoir les lauréats nationaux qui vont se passer, si je me trompe pas, à Québec pour remettre les prix.
Et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Gabriel, d'être venu nous parler aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Bonjour, ici Judy Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Et puis, la chorale de Yellowknife partageait récemment son goût pour les œuvres historiques et mondiales en présentant un concert au Northern Arts and Cultural Center de Yellowknife. Le groupe de choristes organise 2 spectacles par année. Celui-ci était le premier, donc, de l'année 2023. Raphaël Hamel a gardé l'œil ouvert pour en parler avec le choriste Patrice Tremblay, membre de la chorale adulte Aurora Coriolis, qui se produisait récemment, donc, dans cette salle de Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest.
Ce spectacle-là, en particulier, nous fait voyager dans différents pays, nous fait même voyager à travers le temps dans différentes langues. La chorale adulte, on va chanter dans 6 langues différentes.
OK, wow!
L'anglais, le français, bien évidemment. Une langue isi-zoulou qui est parlée par les Zoulous de l'Afrique du Sud. On parle aussi de langue slovène, estonienne et qui n'est pas une langue, mais qui vient de l'Afrique du Sud. Donc, on appelle une espèce de structure syllabique, donc formée à partir de syllabes et de sons. Donc, une espèce de langue inventée. Pour l'anglais, le français, pour la plupart de nous, ça va, on comprend. Oui, dans les autres langues, évidemment, c'est le défi est là, puis l'intérêt est là aussi. C'est sûr d'apprendre en phonétique. Particulièrement ces langues-là qu'on ne connaît pas du tout. Donc, en se fiant parfois à des enregistrements qui existent déjà sur YouTube de prononciation des mots, on réussit toujours à obtenir là, un résultat assez satisfaisant, au mieux de nos capacités d'anglo et de franco.
Pourquoi vous avez décidé de rejoindre, ça fait combien de temps que vous êtes dans la chorale de Yellowknife et pourquoi vous avez décidé de la rejoindre?
Moi, personnellement, j'en suis à ma 5e année. J'ai découvert la chorale, moi. Aurora Coriolis était venue présenter un spectacle au Château de Neige du Festival Snow King, dont moi, je fais partie. Et puis, j'ai vu ça. Allez, j'avais des amis dans la chorale. Puis, après le spectacle, en parlant de ça, je me suis rendu compte que c'était facile pour moi de me joindre. J'avais juste à avoir le désir et me joindre. C'est aussi une invitation à tous, à vous tous, donc, qui m'écoutez. La chorale est une chorale communautaire, donc elle invite tout le monde et tout le monde est capable de suivre la parade et de participer.
L'invitation est lancée. Nous étions avec Patrice Tremblay, choriste de la chorale de Yellowknife.
Merci.
Au revoir.
Et les casiers sont pleins à la Human Society de Winnipeg où les animaux de compagnie s'entassent. Le nombre de chiens confiés au refuge pour animaux a grimpé en flèche à Winnipeg, mettant à rude épreuve les ressources et les capacités des organismes qui s'en occupent. Selon Alessandra Sorto, responsable des communications et du marketing à la Winnipeg Human Society, l'augmentation du coût de la nourriture et des fournitures pour animaux a affecté de nombreuses familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Plusieurs doivent prendre la décision difficile de se séparer de leur animal. Madame Sorton invite d'ailleurs la communauté à faire partie de la solution, notamment en adoptant un animal de compagnie, et le refuge y met aussi du sien en réduisant les frais d'adoption pour les chiens de grande race et les chiots. Martine Bordelot, bénévole au Spirit of Hope Rescue de Winnipeg, affirme que l'organisme est également confronté au même phénomène. Elle est en compagnie de notre journaliste Iman Elhaji à Saint-Boniface au Manitoba.
Ce sont des périodes particulières qui font qu'il y a plus de chiens et de chats qui ont besoin d'être secourus. C'était le contraire au début de la pandémie. Tout à coup, tout le monde était à la maison. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient un animal de compagnie parce qu'ils passaient plus de temps seuls à la maison, isolés. Alors, ça aidait beaucoup d'avoir un animal de compagnie. C'est très compréhensible. Après 3 ans, les gens reprennent, en tout cas certains, un peu de normalité, c'est-à-dire qu'ils sortent toute la journée, qu'ils peuvent pas s'en occuper autant. Les animaux sont retournés ou on les envoie dans un refuge parce qu'on peut plus les garder. Et il arrive très souvent que les gens se disent qu'ils veulent un chien, par exemple. Puis, ils ont pas pris en considération leur style de vie, l'endroit où ils vivent, leur capacité, leur budget. Ça coûte beaucoup de sous, hein, s'occuper d'un animal de compagnie. Et après quelques semaines, ils réalisent que c'est pas pour eux et ils retournent l'animal. Généralement, c'est relié à la vie quotidienne des gens. Alors, l'autre période pendant laquelle il y a un retour, c'est souvent avant les vacances parce que les gens veulent partir en vacances puis ils veulent pas se préoccuper d'amener leur chien ou leur chat avec eux. Alors, la solution, c'est de le donner ou les gens déménagent, par exemple. Donc, au printemps, au début de l'été, c'est une période qui peut être assez accaparante pour les refuges.
Et c'est tout pour nous cette semaine. Merci à nos journalistes Raphaël Hamel, Iman Elhaji, Elisabeth Seguin, Maxime Gauthier, Daniel Aucoin et Marie Hillès, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire avec le précieux soutien de votre radio locale. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci à vous de nous tenir compagnie. Faites de même avec l'émission qui suit. À la semaine prochaine.
@CanadaLJB. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.